Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, chapitre 22, Fervor de Buenos Aires, ferveur de Buenos Aires. Merci de votre fidélité à Carrefour des Amériques et soyez tous les bienvenus dans la capitale argentine. Nous sommes en 1923 et c'est l'année de la publication du premier chef-d'œuvre de Jorge Luis Borges, qui a alors 24 ans, Fervor de Buenos Aires, ferveur de Buenos Aires. C'était, disait-il, à l'époque où je cherchais les crépuscules, les faubourgs et le malheur. Comme dans son poème dédié au sud argentin. J'ai regardé depuis tes patios les anciennes étoiles. J'ai regardé depuis le banc d'ombre ces lumières éparses que mon ignorance n'a pas appris à nommer. Au fond, toutes ces choses sont peut-être le poème. En ces années, les cinémas pullulent à Buenos Aires et Borges aime le cinéma. Il est devenu essentiel pour les musiciens. Les films muets sont une manne pour les nombreux pianistes de la capitale. La musique y joue un tel rôle qu'il n'est pas rare de confondre le titre d'un film avec la musique qu'on a entendue lors de sa projection. Et plus d'un grand virtuose s'est essayé à l'exercice, profitant de l'occasion pour répéter là des œuvres de son répertoire. C'est le cas de Sebastián Piana, qui sera plus tard l'auteur d'une fameuse milonga sentimentale. Il a alors 19 ans et va devenir l'un des plus grands pianistes de tango. Sebastián Piana interprétait ici sa composition Juan Manuel. En 1923, une grande dame du tango, la belle Azucena Maizani, fait des débuts impressionnants au prestigieux Théâtre National le 27 juillet, dans un sainete populaire où elle chante un tango d'Enrique Delfino qui venait de la découvrir. Le public l'adopte aussitôt. Elle chante ici un de ses grands succès, Monte Criollo, où il est question de cartes à jouer, de cartes peintes, porteuses d'illusions, un texte d'Homero Manzi qui aimait beaucoup Borges. On songe à ces fameux vers « 40 cartes ont déplacé la vie, 40 talismans en carton qui nous font oublier nos destins. »
40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en busca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así por robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del basto te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Dans ces années, beaucoup de familles aisées qui habitent de superbes demeures dans le vieux quartier de San Telmo commencent à partir vers des quartiers plus huppés. Du coup, beaucoup d'immigrants les remplacent et y trouvent refuge. Et dans les cours ou sur les places, on danse aussi bien le fandango et la buleria flamenca que le tango. Car la musique populaire espagnole est de nouveau à la mode après les premiers concerts de Raquel Meyer qui ont attiré les foules à Buenos Aires. Raquel Meyer, la coupletista, la chanteuse de couplets, ses chansons très passionnelles et souvent audacieuses, des chanteuses que les Argentins appelaient des tonadilleras, du nom des tonadillas du théâtre musical populaire espagnol du XVIIIe siècle. Et toutes les jeunes filles rêvent d'être un jour comme Raquel Meyer sur une scène de théâtre. C'est ce que chante Carlos Gardel en 1923 dans un tango espagnolisant. Ton professeur de danse m'a dit que tu étais douée, ma chérie. Il promet de te faire monter sur scène si tu t'y mets vraiment. Après tout, Raquel Meyer y est bien arrivée. Deviens donc une tonadillera et on ira habiter les beaux quartiers. Un gros succès du disque cette année-là.
Anoche, le maestro querido me estuvo haciendo el puto. Me dijo que tenés gozo para cantar destino. Se sintió en los caminos una noche de verbena y que le causa gran pena que vos no te decidas. Si China cuando canta tenés una gran escena. Y de que él se cae para verte en menos de una semana. Por parte tiradita, pero muy de la banana. Te enseña a hacer obligada, no sé si no si te resamba. Si pasar tonas viseras, hay que tener buena gamba. Si pasar tonas viseras, hay que tener buena gamba. Canta la linda Selma, Raquel Meyer, la sasá. Si esas son tonadilleras que se han hecho triunfastará. Si haces hacer los afiches, buenos reteras y chiliches. Y no faltará mi che, que palme todo ese gasto. Y que se hagan debutar en un teatro del abasto. No diga que no, viejita, que la pasaremos bien. separemos el cotorro, alumbra agua pero sueño. Así que desde mañana, derechito pa' el ensalzo, verás cómo hacemos vento, al menos que cante un gallo. Verás cómo hacemos vento, al menos que cante un gallo.
En 1923, Carlos Gardel entretient une étrange relation avec la jeune Isabel del Valle, qu'il abreuve de cadeaux, une relation qui curieusement a vite tourné court et n'a jamais été une véritable liaison amoureuse. Cette année-là, il part pour la première fois en Europe, avec José Razzano et ses deux guitaristes, Barbieri et Ricardo, au sein d'une compagnie théâtrale argentine. Gardel se fait photographier en Uruguay en costume de gaucho. Il sait bien que c'est ainsi que les théâtres européens présentent les musiciens populaires argentins. Début décembre, le Quatuor arrive à Vigo en Galice et part à Madrid pour jouer au théâtre Apollo. Pour que les Espagnols puissent comprendre les paroles, on distribuait à chaque spectateur une liste de mots lunfardo utilisés dans les tangos. L'Espagne et l'Argentine ont de tout temps gardé des liens très étroits. Ainsi, dans la saison du Théâtre Colón, l'événement est la création de l'opéra de Manuel de Falla, La Vida Breve, La Vie Brève, créé en France 10 ans auparavant. Un opéra où le personnage principal est sans doute la ville de Grenade, qu'on entend s'éveiller au début de l'œuvre, comme si on l'observait du haut de l'Alhambra, d'où on assiste aussi au coucher de soleil à la fin du premier acte, alors que parviennent, du quartier de l'Albaïcine en contrebas, les échos d'une farandole joyeuse mêlée au thème du destin tragique qui parcourt tout l'opéra.
Thank you.
Le chœur est l'intermezzo du premier acte de La vita breve et la vie brève de Manuel de Falla, Rafael Frubeck de Burgos à la tête du chœur de Saint-Sébastien et de l'Orchestre National d'Espagne. Après un de ses concerts au Théâtre Apollo de Madrid, Carlos Gardel reçoit la visite dans sa loge d'une jeune fille qui a alors 13 ans et dont il connaît bien le père. Cette Imperio Argentina qui chante déjà professionnellement et qui n'oubliera jamais cette rencontre. Surtout quand, devenue une grande vedette en Espagne, elle chantera au début des années 30 des mélodies argentines et des tangos. Alors que s'achève l'année 1923, Carlos Gardel fait un aller et retour de Madrid à Paris. Il veut prendre des contacts pour d'éventuels engagements en France. Puis il se rend à Toulouse, où il renoue avec ses racines et embarque ensuite pour Buenos Aires. Cette année-là, une œuvre symphonique argentine est créée à Paris grâce au chef d'orchestre Francis Casadesus, qui avait fondé en 1921 le Conservatoire américain de Fontainebleau en collaboration avec Walter Damrosch, chef attitré du Philharmonique de New York. Durant la Première Guerre, en effet, ce dernier, en voyage à Paris, avait chargé Casadesus de prendre en main les fanfares militaires américaines et de mettre sur pied une école de musique au quartier général de Chaumont. Tous deux ont eu alors l'idée de créer un conservatoire américain dans une aile du château de Fontainebleau. Or, à la même époque, deux pianistes qui reviennent d'Argentine, Maurice Duménil et Ricardo Vignes, ont mis à leur répertoire une rhapsodie d'un certain Manuel Gómez Carrillo, dans laquelle il évoque sa région natale de Santiago del Estero et les paysages grandioses du nord argentin. Un poème symphonique créé le 3 septembre 1920 dans la ville de Tucumán. Francis Casadesus est très séduit et il décide de le créer à Paris, le 15 février 1924, à la tête de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Thank you. Manuel Gómez Carrillo est né en 1888 dans la ville de Santiago del Estero, dans le centre nord de l'Argentine, au milieu d'immenses étendues sur la longue route qui mène de Buenos Aires à la Bolivie. À la fin de ses études, l'Université nationale de Tucumán, capitale de la province voisine, fait appel à lui pour collecter les musiques les plus anciennes de ces régions, en particulier les musiques indigènes. C'est ainsi qu'il arrive, en 1919, dans la ville de Jujuy, plus au nord, au pied des Andes, et qu'il commence à classer ses archives. Un an plus tard, lors de conférences à Tucumán, puis à Buenos Aires, au Grand Théâtre de l'Odéon, il raconte comment il a collecté plus de 200 thèmes musicaux. Il est urgent, précise-t-il, que le pays préserve ce trésor national. Sa Rhapsodie de Santiago, écrite ces années-là, évoque tous ces paysages qu'il a lui-même découverts. Les Andes, imposantes et familières à la fois, les fleuves et les immenses lacs, dont le lac Salé, l'un des plus vastes de la planète. Le poète Dalmiro Coronel Lugones a merveilleusement chanté la région de Santiago del Estero. Si un jour le destin me mène vers d'autres cieux, je cacherai ma tristesse dans les bagages. J'aurai au fond des yeux la solitude des espaces, la nostalgie des crépuscules jaunes et leurs reflets dans le miroir des lacs, les arbustes épineux aux branches noires qui brillent dans les salines, les crépuscules qui ont les cernes bleues des lointains.
Thank you.
Suite à ses recherches, Manuel Gómez Carrillo enseigne à l'École normale de Santiago où il crée un conservatoire. Il est ensuite nommé à la tête de l'Institut national de la tradition à Buenos Aires. Le chant du gaucho, écrit-il, exprimait sa grande mélancolie ou son amour intense, mais il n'a été qu'un balbutiement par rapport au grand monument qu'il avait imaginé. À nous donc de transformer ces balbutiements en de beaux leaders ou de somptueuses symphonies. Dans son roman « Adam de Buenos Aires », publié dans les années 1940, Leopoldo Marechal évoque l'Argentine des années 20. Dans le troisième livre, lors d'une discussion animée, un des personnages évoque, et je cite, « cette racine indigène qui, avant de mourir, a laissé dans la pampa une mousse douloureuse, une héroïque prolongation de son sang. » Un type crucial, fleur de la guerre, le gaucho né de l'amour ou de la haine, on ne le saura jamais, œuvre au ciment de la patrie, de façon obscure certes, mais de l'admirable obscurité des ciments qui sous terre étayent l'élégance extérieure de l'architecture. Et dans le roman de Marechal, le gaucho se met alors à galoper, à chanter et à danser comme un cavalier fantomatique. Thank you. La Rhapsodie à Santiago del Estero du compositeur argentin Manuel Gómez Carrillo, l'orchestre de Reutlingen en Allemagne, dirigé par Gabriel Castagna.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Les gauchos faisaient partie de l'univers du jeune Jorge Luis Borges dans son quartier de Palermo, qui était ces années-là aux frontières de la ville et d'où il voyait une campagne qu'il imaginait être la Pampa parce que, disait-il, je l'ai vue à l'extrémité d'un faubourg. Ah, Palermo, tu avais une jovialité faite de tango, de quoi nous rendre bravaches, des jeux de cartes argentins pour camoufler la vie et des aubes éternelles pour comprendre la mort. À Palermo, la musique populaire qu'aimait Borges avait trouvé refuge, comme un peu partout d'ailleurs, à l'ouest du quartier de Barracas, dans les cafés avec serveuses entre guillemets du port de la Boca, dans les cafés-concerts du centre, où jouaient d'excellents orchestres, dont le plus réputé, celui de Roberto Firpo. Il ouvrait ainsi l'espace de la vie tanguera dans la capitale. Du Montmartre au Royal Pigalle, du cabaret L'Abbaye de la rue Suipacha au célèbre Armenonville, le tango se sent partout chez lui. Entre les danseurs professionnels et les patotas, ces groupes de jeunes fortunés venus s'encanailler. Entre les caudillos politiques et les journalistes bohèmes, les transfuges sociaux et les muñequitas déplacèrent les poupées de plaisir comme des jouets brisés, que cite Carlos Gardel dans un tango foxtrot.
Porque en toda su linda personita pispireta, pobrecita, tan frágil y coqueta, era una muñequita, juguete de placer. Linda muñequita de cera, nacida para gala de vidriera, nunca sospechó que la vida su juego de placer también olvida, y se vistió de esperanza y se lanzó al torbellino, tal vez confiado al destino de su interior de acerrín. Pero llegó la hora que de jugar cansada, muñeca abandonada, la dejo en la ilusión, y como un pobre juguete roto, cuando su pecho se abrió a la cuita, se supo entonces que muñequita también tenía su corazón. La llamaba muñequita, porque en sus ojos de cielo y en el oro de su pelo nada había de mujer, y porque en toda su linda personita pispireta, pobrecita tan frágil y coqueta, era una muñequita, un juguete de placer.
Un tango très désabusé chanté par Carlos Gardel, qui continue ces années-là à aller écouter des opéras au Théâtre Colonne entre deux tournées. Il a lié une belle amitié avec Ninon Valin, qu'il admire et à qui il fait découvrir le tango. Le théâtre est à son apogée et peut compter sur le soutien du président Alvear, grand mélomane. En 1907, à Lisbonne, il avait rencontré sa future épouse, la soprano portugaise Regina Pacini, qui avait terminé là-bas sa carrière. Tous deux soutiennent la culture et la musique. En 1923, le compositeur allemand Richard Strauss est de retour à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne, notamment pour la création en Argentine et en Uruguay de son opéra Electra. La saison au Théâtre Colonne débute le 20 mai avec Aïda et Tristan de Wagner enfin chanté en allemand. Le 26 juin, Strauss est dans la fosse pour Salomé, puis le 6 juillet pour Elektra. Le tout Buenos Aires est présent et on joue à guichet fermé. Il dirige ensuite 12 concerts au mois d'août, sans compter ceux de Montevideo où il est accueilli en héros. Beethoven est à l'honneur avec la plupart de ses symphonies, la 9e étant jouée sans le dernier mouvement. Puis les grands compositeurs germaniques, de Haydn à Korngold et bien sûr Richard Strauss lui-même. Comme son ami Felix Weingartner, il crée 2 œuvres de compositeurs du Rio de la Plata. Il a choisi le poème symphonique Campo de l'Uruguayen Eduardo Fabini et Entre las Montañas, au milieu des montagnes, de l'Argentin Floro Ugarte, dont le manuscrit est conservé aujourd'hui encore à Buenos Aires, avec toutes les annotations de Richard Strauss. Dernier mouvement de Entre las Montañas, au milieu des montagnes, du compositeur argentin Floro Ugarte, enregistré sur le vif au Théâtre Colonne en 1975 par l'Orchestre Philharmonique de Buenos Aires, dirigé par Mario Bensecri. En 1923, La soprano française Ninon Valin est aussi de retour dans le Rio de la Plata et c'est sa 5e saison. Elle y chante ses opéras habituels, Marouf, Manon, Thaïs, Louise, La damnation de Faust. Elle crée même une œuvre de l'italien Riccitelli. En Uruguay, c'est Manon qui est choisie pour le gala de la fête de l'indépendance. Il se trouve qu'en 1923 et en 1924, la compagnie théâtrale d'art Inca de l'écrivain péruvien Luis Valcarcel est en tournée en Argentine. Après une escale importante au théâtre de Santiago del Estero, la troupe est du 9 au 22 novembre sur la scène du Théâtre Colón à Buenos Aires. Suite au succès, elle revient même en août suivant. Cette fois, avant la projection d'un film sur le Pérou, Ninon Valin donne un récital avec harpe et flûte le 7 août 1924. Elle venait de rencontrer l'ethnomusicologue française Marguerite Béclard d'Harcourt, qui avait recueilli avec son époux Raoul d'Harcourt de nombreuses mélodies populaires andines entre 1912 et 1918, des chants qu'elle avait harmonisés pour voix flûte et harpe en langue quechua et en espagnol que Ninon Valin a créé ce soir-là en Argentine.
Oh,
Ninon Valin était accompagné par René Leroy à la flûte et Pierre Jamais à la harpe dans ses mélodies anciennes du Pérou. C'est le compositeur d'origine italienne Pasquale De Rogatis qui avait donné le coup d'envoi de la vogue américaniste et indigéniste dans la musique argentine lors de la création de son poème symphonique Soupaille et surtout de son opéra Où est Mac au Théâtre Colonne en 1916. 10 ans plus tard, c'est Constantino Gaito qui compose Ollantay, l'histoire d'un guerrier péruvien qui paye de sa vie son amour pour la Ñusta. La Ñusta, c'est la fille de l'empereur Inca. Plusieurs compositeurs se sont inspirés de ces histoires et légendes de l'Amérique précolombienne. Ainsi, Alfredo Schiuma, lui aussi italien d'origine, vient d'obtenir en 1923 le prix national de la musique pour son opéra Tabaré, qui met en scène les indigènes d'Uruguay. Il a aussi écrit plusieurs mélodies d'inspiration andine, dont une émouvante complainte de la Ñusta, la fille de l'Inca, que le pianiste Tomás Balicora a enregistré récemment avec la soprano argentine Jacquelina Olivieri.
Thank you.
Jacqueline Olivieri, soprano, avec Thomas Balicora au piano dans cette chanson de la fille de l'Inca, de Alfredo Schiuma. Quand Carlos Gardel arrive en Espagne, un tango attire son attention à Madrid, un tango espagnol. Il va l'adopter et le rendre célèbre. Fumando espero, j'attends en fumant. Il est inclus dans une pièce de théâtre, La Nueva España, la Nouvelle Espagne, au théâtre Victoria de Barcelone. Il deviendra l'un des tangos les plus chantés ces années-là. L'espagnol Ramoncita Rovira, qui l'a créé, était une soprano coloratura étonnante. Elle chantait des couplets aussi réalistes que les chansons françaises de l'époque. Je fume allongé sur ma chaise longue en attendant l'homme que j'aime. Quand il est là, j'aime sentir ses lèvres sur les miennes et sa fumée enivrante qui met le feu à mon amour. C'est sur ce tango espagnol en 78 tours et qui gratte comme il faut qu'on se quitte aujourd'hui. Pour nous retrouver bien sûr dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Valérie Lavaillard, qu'on peut écouter et réécouter en podcast.